Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais.
20 ans. Qui es-tu à 20 ans? Est-ce que t'es une vieille ado? Une jeune adulte? C'est quoi ta place dans le monde? Avoir 20 ans, ça représente quoi pour toi? Sûrement pas la même chose que pour moi, que pour lui ou que pour elle. Bienvenue dans 20 ans d'âge, le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine. Ici, on rassemble des histoires et des expériences toutes riches et différentes des gens de 20 ans. J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois.
Alors moi c'est Yanis, j'ai 22 ans, je suis étudiant, salarié et j'ai cofondé l'association Saint-Nibyl au cœur en 2017 avec mes camarades Lucas Poissonetti Carouchen et Lina Melal.
Et moi c'est Youssef Bermaidi, j'ai 23 ans, je suis aussi membre de l'association Saint-Nibyl au cœur où j'essaye de coordonner un maximum tout ce qui va être fait dans la direction des LGBTQI+. Et sinon, je suis aussi étudiante dans le même master que Yanis et je travaille aussi. Parce que la vie, c'est pas gratuit.
Exactement. C'est bien de le rappeler.
Il faut le dire, hein, il faut le dire.
Et on vous voit apparaître et même, carrément, il y a un documentaire qui sort sur vous et la première marche des fiertés que vous avez organisée à Saint-Denis en juin 2019. Ça s'appelle La Première Marche et c'est sorti le 14 octobre. C'est un peu votre process de création de cette marche. Comment vous avez été approché par l'équipe du film, donc les réalisateurs qui sont Baptiste Etchegaray et Hakim Atoui?
Alors, c'était très, manufacturé. Enfin, ils nous ont juste contactés comme ça par mail. C'était par un ami commun. Voilà, ils nous ont dit, est-ce qu'on peut vous suivre avec des caméras? Et nous, on s'est pas trop posé de questions. On s'est dit, ouais, pourquoi pas. Simplement, c'était...
On s'était quand même dit que ça pouvait être sympa, justement, de documenter un petit peu l'organisation de cette marche. On n'avait pas non plus envie de s'embarquer dans une démarche hyper prétentieuse qui consisterait à ultra se mettre en avant. Mais c'est vrai que ça nous paraissait pertinent de donner une première visibilité aux queers de banlieue, parce qu'on ne sait pas véritablement qui on est, en fait. Même ne serait-ce que nous appeler queers de banlieue, même nous convoquer dans une conversation, ça peut susciter énormément de surprises. Du coup, on s'était dit... Allons-y, mettons nos visages partout.
Et comment ça s'est venu, cette idée d'organiser une première marche des fiertés en banlieue? Et pourquoi ça n'avait pas été fait avant?
Alors pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce que personne ne l'a fait avant, je pense. Déjà dans un premier temps.
Vraiment, Yanis, une porte ouverte, il vous l'enfoncera.
Non mais c'est vrai, c'est assez dur à expliquer. Peut-être que personne n'a eu l'idée, peut-être que personne... En tout cas,
j'ai entendu parler personnellement pendant qu'on l'organisait de certaines personnes, certains militants qui avaient eu l'idée de l'organiser, mais
pourquoi ils n'ont pas fait? Ils ont expliqué ça?
Je sais pas du tout. Ça doit être lié peut-être juste à de simples contingences. Il y a eu une volonté, mais la volonté s'est transformée en velléité parce que quelque chose s'est passé.
La vie c'est dur finalement.
La vie c'est dur finalement.
Mais du coup, pourquoi on l'a fait? Ça répondre à un manque, répondre à un besoin de visibilité, la visibilité des queers de banlieue populaire, c'est comme disait Youssef, c'est des identités dont on ne parle pas, des identités qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas la parole et dont la simple existence en fait fait des bugs mentaux, à pas mal de gens. Donc c'était assez important de montrer que ça existe et que en fait ces gens ils ont des problèmes particuliers, des problèmes spécifiques et auxquels il faut répondre.
Ça paraît tellement évident justement d'organiser une Pride des banlieues que justement quand j'ai rencontré Yanis, au bout de, je crois, 2 ou 3 semaines de fréquentation, il a fini par me dire justement que son association organisait une Pride des banlieues. Et là, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Ça me paraissait tellement évident de m'engager dans ce type de militantisme parce que moi, je venais tout juste de déménager en Seine-Saint-Denis, du coup à Aubervilliers spécifiquement, mais j'étais à la fac à Saint-Denis. Avant, j'étais à Poitiers. Et à la base, je suis marocaine, je viens de Rabat. Donc ma première étape, ça a été en France, ça a été Poitiers. Et c'est vrai que à ce stade, après quelques années passées en France, bah, je me suis rendu compte que bon, il y avait quand même certaines choses sur lesquelles je devais gueuler, quoi. Il y avait certaines choses pour lesquelles il fallait militer. Et ça me paraissait parfait, en fait, de m'engager dans un projet tel que la Pride des banlieues.
Mmh. Mais ouais, c'est ce qui était ce qui est intéressant aussi dans le docu, c'est que vous apportez des mots qu'on entend peu souvent ou encore trop peu souvent. Est-ce que vous pourriez par exemple donner des définitions de intersectionnalité ou homonationalisme?
On est ravis. Que tu poses la question.
C'est
bonne question.
C'est bien. Il faut rabâcher ce genre de choses. Je te propose de faire l'intersectionnalité. Je m'occupe de l'homonationalisme.
Yes, de ouf, c'est top. C'est exactement ce que j'avais
dit. Super organisé.
Deux esprits, un corps. Non, deux corps, un esprit. Voilà. Bref. En gros, l'intersectionnalité, on est vraiment très content justement de pouvoir proposer une définition de l'intersectionnalité, parce que ça, je sais pas à quel point j'ai droit à des gros mots dans le podcast.
Tu peux y aller.
Mais ça se barre en couilles dans les médias, wesh. Genre, on nous parle tout le temps de l'intersectionnalité comme étant une idéologie qui va souvent être signalée par l'adjectif afférent, à savoir intersectionnaliste. Alors que l'intersectionnalité, ça n'a rien d'une idéologie. L'intersectionnalité, c'est un cadre d'analyse qui a été théorisé par Kimberlé Crenshaw, donc qui est une juriste états-unienne, spécifiquement pour répondre à un besoin qui avait été exprimé durant des siècles, en fait, par les militantes féministes noires. Et en gros, c'est un cadre d'analyse qui permet de comprendre les situations très spécifiques, en fait, que provoque l'intersection des discriminations. Il ne s'agit pas nécessairement, en fait, d'additionner les discriminations. Quand on est une femme noire, c'est pas on subit les discriminations d'un homme noir plus les discriminations d'une femme blanche. C'est vraiment, c'est une situation en elle-même, c'est une vraie réalité avec ses propres spécificités. Et elle, ce qu'elle fait, Kimberlé Crenshaw, c'est que justement, elle s'appuie sur différents cas juridiques, en fait, pour montrer que, ben, il y a eu beaucoup d'occurrences, en fait, où les femmes noires n'ont pas pu se pourvoir en justice en tant que femmes noires pour faire valoir des discriminations qu'elles ont vécues en tant que femmes noires. Donc c'est ça, c'est un cadre d'analyse qui permet vraiment de faire ressortir les spécificités de certaines situations. Et comme nous, bah justement, on vient de banlieue populaire, on peut être immigré ou alors en tout cas on est descendant de l'immigration. Bah ouais, nos parcours sont zébrés par différentes discriminations, par différents rapports à la société, rapports au monde, rapports à la hiérarchie qui méritent leur propre espace. D'où l'emploi d'intersectionnalité pour révéler un peu l'invisible.
Voilà, donc ça c'est pour l'intersectionnalité. L'homonationalisme, qu'est-ce que c'est? C'est plus simple à comprendre. C'est l'utilisation des luttes LGBTQI+ à des fins racistes et classistes. Donc typiquement, quand par exemple le Front National, il va dire les migrants, en fait, ils font des agressions homophobes. Les migrants, ils font des agressions homophobes et du coup, bah, il faut virer les migrants. Voilà, il faut qu'ils sortent de France. Voilà,
ouais, c'est la récupération.
Voilà, on récupère des luttes et en fait, c'est tout en oubliant en fait que le siège social d'un manif pour tous est dans le 15e. Enfin, je veux dire, Compiègne, par exemple, on était allé à Compiègne pour une projection, une avant-première du film. Ils nous ont tous expliqué que là-bas, hein, Compiègne, c'est quand même très blanc et riche. Hein. Ils expliquaient que l'Église catholique, c'était un vrai problème là-bas parce qu'en fait, ils les empêchaient d'exister. Donc, ils oublient ça, par contre.
C'est très rigolo parce que l'homonationalisme existe aussi. Enfin, il y a aussi le fémonationalisme. Et je pense que c'est assez important aussi de connaître le fémonationalisme parce qu'en ce moment, on en a en veux-tu, en voilà dans les médias de la part de nos politiques, notamment, qui justifient en fait leur islamophobie et leur politique migratoire. En mode, oui, non, mais vous savez, les immigrés, surtout ceux qui viennent de Maghrébi et de Musulmanie et d'Africanie, ils ne respectent pas forcément trop l'égalité homme-femme. Mmh. Parce que c'est vrai qu'en France, franchement, être une femme, c'est top,
c'est
on a des droits, on est protégé quand il nous arrive des choses. Enfin, c'est vraiment, j'adore, moi. T'adores pas, toi?
Moi, j'adore.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, vous étiez étudiant, vous êtes toujours étudiant en sciences politiques. Et il y a une phrase qui m'a marqué que t'as dite, Youssef, c'était tout est politique chez moi. Et notamment le sexe. Est-ce que ça c'est un truc vrai dans votre vie de tous les jours? Est-ce que chacune de vos actions est un geste politique?
Je sais pas si tu veux répondre, mais en fait, c'est oui, tout est interprétable de manière politique. Ça c'est vrai. En fait, on peut tout analyser sous cet angle-là. En fait, rien n'est anodin, rien n'est neutre. Et en fait, ça c'est vraiment une réalité concrète. On est dans ce monde et on existe dans ce monde de manière politique parce que c'est les conséquences de l'histoire, des décisions politiques d'avant, d'aujourd'hui. Et ça c'est une réalité. Mmh.
Après, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne vit pas nécessairement pleinement notre subjectivité et les particularismes qui font nos identités. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours de replacer ça dans un cadre objectif et de relativiser ça autant que possible. Donc, par exemple, quand je pense à mes préférences sexuelles ou amoureuses, j'essaye de les remettre en question, histoire de voir s'il n'y a pas des écueils racistes, s'il n'y a pas des écueils misogynes, sexistes. Parce qu'il y en a. La question des préférences sexuelles, justement, c'est vrai qu'elle se pose de plus en plus, notamment au regard des personnes racisées ou des personnes trans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font comme si leur préférence sexuelle c'était tiré d'une espèce d'imaginaire subjectif, libre de toute contrainte de la société. Non, malheureusement, non, désolé, le Père Noël n'existe pas et tes préférences sexuelles sont construites. Mais c'est pas grave, hein.
Mais oui, c'est ça, c'est que je trouvais que dans le documentaire, il y avait un truc de c'est pas grave et il faut se remettre en question et se construire tout le temps. Et comment ça s'est passé justement la communication et l'information à Saint-Denis sur cette première marche des fiertés?
Eh bien, assez bien. Finalement, il y a une grosse réceptivité sur les réseaux sociaux déjà dans un premier temps. Et c'est pour ça que l'événement a pu rassembler tant de monde. Par ailleurs, on a aussi pas mal flyé, collé des affiches un peu partout, surtout dans le territoire de pleine commune. Et les gens en général, ils étaient plutôt contents de savoir. Beaucoup d'indifférence, certaines personnes qui étaient motivées, certaines personnes qui ne voulaient pas venir et qui tenaient à nous le dire. Voilà, mais c'est tout.
Oui, et puis aussi des interactions sociales qui n'avaient pas forcément beaucoup de sens. Mais bon, oui. Ça, je suppose que c'est le pain quotidien de toute personne qui travaille dans la rue comme ça. mais c'est vrai que, par contre, les séances de fly, elles étaient quand même plutôt cool parce que j'imagine, par exemple, un petit Parisien qui a ultra peur de la banlieue, qui irait jamais prendre la ligne 13 au-delà de la Fourche ou même de Saint-Lazare, il pourrait se dire « Ah, mais quand même, flyer pour une Pride des banlieues, ça expose à tout un tas de violences », mais en fait, pas du tout. Et c'est là que peut-être qu'on devrait se rendre compte, en tout cas à Paris, que la banlieue, c'est quand même un espace qui est extrêmement complexe, en fait, qui est nuancé comme un peu tous les espaces, en fait. Moi, je me rappelle aussi d'avoir croisé pas mal de militants âgés pendant mes séances de fly, qui avaient surtout un passé militant du coup dans leur pays d'origine, surtout au Maghreb, et qui n'étaient pas nécessairement militants pour les droits LGBTQI+, mais en tout cas qui étaient super contents qu'il se passe une mobilisation à Saint-Denis, qu'il se passe une mobilisation en banlieue populaire, parce que ils en pouvaient plus en fait. Entre les discriminations, les problèmes de transport, les problèmes structurels, l'insalubrité des logements, la surmortalité maintenant avec le Covid, à un moment donné, voilà quoi.
Et ouais.
Non, en fait, je me suis arrêté là, pardon, excuse-moi.
On peut continuer, hein.
Et qu'est-ce qui a déclenché chez vous, en fait? Est-ce qu'il y a un événement ou un contexte familial qui a déclenché chez vous cette envie de, d'être militant, tu vois? Parce qu'il y a une différence entre être engagé et être militant. Et militant, ça veut dire faire des choses concrètes. Qu'est-ce qui a déclenché ça chez vous?
Tu veux répondre?
De toute façon, on va tous les deux répondre. Hein.
Tu veux commencer?
Ouais, je peux commencer. Je pense que ce qui m'a permis de devenir véritablement militante, c'est bien cette entreprise, cette Pride de banlieue, parce qu'avant, je me considérais comme engagée. J'allais en nager, je participais à des marches, je coordonnais certaines choses, mais c'était pas, je me lançais pas nécessairement dans les activités militantes à bras le corps comme je le fais là maintenant. Après, je pense que l'événement, par contre, qui a vraiment stimulé mon engagement, c'était les attentats du 13 novembre, parce qu'en fait, je venais tout juste d'arriver en France. Et moi, en fait, j'ai fait un lycée français, je viens d'un milieu socioculturel qui était assez mélangé. Moi, après, bien manifestement, les personnes qui étaient marocaines dans mon lycée, elles étaient souvent amenées à remettre en cause leur arabité, parce que ça fait mauvais genre, quoi. Il vaut mieux être un occidental, ça c'est bien. Et du coup, je suis arrivé en France en pensant que c'était vraiment un pays génial, l'herbe est plus verte ici, pays des droits de l'homme. Et en fait, j'arrive ici et je me rends compte de plein de conceptions sociopolitiques hyper cheloues. Enfin, je m'étais pas rendu compte qu'en France, on avait une telle conception du choc des civilisations entre l'Orient et l'Occident, alors que moi, ça me paraissait assez normal que tout soit un petit peu mélangé et que, enfin, j'étais un peu aussi au courant des différentes complexités, des courants occidentaux, quoi que ça veut dire, et des courants orientaux encore plus, quoi que ça veut dire. Et du coup, en voyant cette espèce de montée islamophobe post-attentat du 13 novembre, je sais pas, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, vu ma condition, étant une femme trans immigrée marocaine, pas forcément très riche, même assez pauvre, que je pouvais pas rester les bras ballants, quoi, et que j'avais tout intérêt à pas lambiner.
Moi, en vrai, j'ai grandi à Saint-Denis. J'ai fait tout mon parcours ici. Et en fait, j'ai grandi autour des problèmes. Enfin, c'était quelque chose que je voyais au quotidien, tout simplement. Et en fait, je suis allé à l'université et y avait des mouvements politiques qui réclamaient des trucs et tout. J'ai vu qu'on pouvait faire ce genre de choses. En fait, j'ai essayé de m'impliquer dans ces choses-là. J'étais aussi dans le monde associatif. J'avais un pied dans le monde associatif déjà. Et comment dire, peut-être le fait de comprendre les problèmes et se dire en fait, je vais pas passer toute ma vie à essayer de comprendre ces problèmes sans en les voyant, les comprenant, mais pas agir dessus en fait. Et donc certes, c'était pas forcément les manières, enfin ce que je faisais aussi bien dans le monde associatif à l'époque que dans les mouvements politiques de l'université, c'est pas forcément la manière dont je voyais mon engagement, je voyais aussi mon militantisme. Mais du coup, je me suis dit que bah, si j'étais pas content de ce que je faisais, autant faire ce que je veux faire, quoi, tout simplement.
Et il y avait l'affaire Théo aussi, non ?
Il y avait l'affaire Théo aussi. Bah après, j'allais dire oui, l'affaire Théo, oui. Bah, en fait, j'étais déjà engagé à ce moment-là, je faisais déjà des actes militants.
Ah, ok.
Mais ça, c'est un peu l'acte fondateur de la création de l'association, effectivement. Après l'affaire Théo, on a organisé un procès des violences policières où, en fait, on faisait parler. Voilà, un petit événement sur la ville de Saint-Denis qui a super bien marché, dans lequel on a pu parler justement de violence policière, de rapport à la police, etc. Et c'est vrai que l'affaire Théo, ça nous avait pas mal marqué. C'est là où on s'est dit, bah, en fait, voilà, bon, on va parler chez nous de choses qui nous parlent, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'on veut faire.
Dans le film, vous dites que c'est très important d'utiliser le terme la marche des fiertés. Est-ce que, bah, déjà, vous le définissez, donc je suis chaud que vous le refassiez, et de dire pourquoi aussi c'est aussi important d'inclure ce pluriel en fait des fiertés.
Bah, c'est vrai que de temps à autre, là, on a aussi commencé à utiliser le terme juste de Pride, en fait, vu que maintenant, en fait, à chaque nouvelle Pride qu'on organise, parce qu'on a quand même organisé deux cette année, mais qui sont toutes tombées à l'eau à cause de Miss Rona.
Ouais.
Mais du coup, maintenant, vu qu'on fait des Prides sous forme de festival, on préfère nommer, du coup, le grand festival Pride et le moment de marche, en effet, marche des fiertés. Et du coup, on préfère ces terminologies parce que, enfin, je comprends. Enfin, en fait, je suis tout à fait capable de comprendre et d'expliquer pourquoi on a fini par parler de Gay Pride, mais ça semble assez. Enfin, pourquoi ce serait la Gay Pride ? Il y a pas que des homosexuels, en fait. Il y a pas que des gays. Il y a aussi des personnes lesbiennes. Il y a des personnes trans. Il y a des personnes qui sont intersexes. Il y a des personnes globalement, en fait, dont les orientations sexuelles et les identités de genre sont jugées non conformes. Elles ont leur place aussi. Il y a pas de raison en fait pour c'est comme par exemple nous quand on en fait ce que ça provoque comme effet concret c'est que en fait nous quand on parle de LGBTQI plus phobie au sens large bah en règle générale quand on parle aux médias par exemple on nous dit souvent ouais mais c'est comment l'homophobie en banlieue oui il y a pas que l'homophobie en fait il y a aussi la transphobie par exemple qui est tout aussi importante et même au sein de l'homophobie la lesbophobie c'est pas nécessairement la gayphobie et c'est pas nécessairement la biphobie non plus donc je pense que c'est important quand même de justement visibiliser toutes les situations et toutes leurs spécificités propres sinon on n'avance pas en fait sinon ça donne justement ce qui se passe aujourd'hui à savoir on a une frange assez minoritaire au bout du compte des LGBT qui est plus ou moins favorisée qui a plus ou moins pignon sur rue qui est plus ou moins réintégrée dans la société pendant que nous autres ben on est des crasses littéralement des crasseux.
Ouais. Mais oui, bah ouais, effectivement, en plus, je veux dire, dans notre démarche, ça serait complètement incohérent de parler de Gay Pride, étant donné que nous, on parle justement de situations spécifiques, on utilise justement le carcan d'intersectionnalité. À un moment, si on n'est même pas capable de comprendre les différentes situations dans les minorités de genre et les minorités sexuelles, enfin, je veux dire, comment on va faire pour essayer de comprendre ensuite l'intersection entre ces discriminations et d'autres discriminations qu'on vit sur le territoire. Quoi.
Et du coup, au moment de la marche, vous aviez 20-21 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Oui, c'est ça, oui.
C'est mieux que nous.
Et qu'est-ce que ça... Déjà, est-ce que vous attendiez d'avoir 20 ans ? Est-ce que c'était un âge qui vous parlait ou... enfin, voilà, est-ce que ça vous a apporté une certaine légitimité ? J'en sais rien. Au niveau de votre implication militante
Bah, je pense que j'attendais plus d'avoir 20 ans quand j'avais 12-13 ans et que je m'abreuvais abondamment de séries où il y avait des meufs à New York qui vivent la vie et qui essayent de tout compiler, avoir et l'amour et la carrière. Du coup, j'étais en mode, ouais, j'ai trop hâte d'avoir 20 ans comme ça. Après, j'aurai 30 ans et ce sera encore mieux. Après, j'aurai 40 ans et je serai une vraie businesswoman. Mais après, j'ai pas trop compris que la vie, c'était la vie, quoi. ce qui fait que je pense que, entre-temps, quand je suis arrivé à mes 20 ans, j'étais déjà vachement cynique. Donc, on en parlait ce matin justement avec Yanis. Enfin, on parlait du fait, enfin, je lui ai dit en tout cas que moi, quand j'ai eu 20 ans, j'étais en mode, ah, 20 ans, une année d'existence. Ok, next. Ça change pas grand chose parce qu'en soi, entre mes 18 et 20 ans, par exemple, je sais pas, j'habitais déjà toute seule, j'étais déjà loin de mon pays, de ma famille. J'étais déjà face au capitalisme cis hétéro-patriarcal colonial. Donc, voilà quoi.
Bah ouais, hein, moi non plus, j'avoue, ça m'a pas fait grand-chose d'avoir 20 ans. C'est pas forcément quelque chose que j'attendais. Je pense que l'idée, c'est plus de se concentrer sur ce qui est concret. voilà, donc des situations, des actions, des actes. Voilà. Pas forcément un âge, c'est un âge, quoi, c'est un chiffre.
Je pense, mais après, je pense qu'on aurait bien aimé être content d'avoir 20 ans. Et je sais pas, il y a.
Mais est-ce que, par exemple, les vous de 12-13 ans seraient trop saucés de voir qui vous êtes à 20 ans?
Franchement, je pense. Hein.
Tu penses?
Je pense. Mais je pense que j'en ferai des casses aussi avec mon moi de 12-13 ans. En fait, j'oppresserai mon moi de 12-13 ans et je ferai en sorte qu'il y ait un schéma de hiérarchie et de domination bien ancré.
Pourquoi?
Je sais pas, juste pour le plaisir du crari, tu vois. Je sais pas. Toi, t'es pion, justement. Enfin, je sais pas, quand tu t'occupes de tes élèves et tout, je suppose que tu fais un peu le mec, non?
Ben non, moi je le prends sur un rapport d'égalité.
Il vaut mieux que ça, apparemment. Il vaut mieux que ça. C'est ça, c'est moi qui suis répréhensible moralement.
Tout à fait. Ouais, non, chez App, quand j'avais 12-13 ans. Peut-être, hein. J'avoue, je me rappelle plus trop, hein. C'était un peu trop, cet âge-là. On était en cinquième, un truc comme ça.
13 ans, c'est, ouais, je crois, la cinquième.
Ouais, c'est ça.
Cinquième, quatrième.
En cinquième, hein. Je sais pas, j'imagine qu'il y avait peut-être une attente d'être grand, ouais, peut-être.
Non, mais en mode, est-ce que tu penses que ton toi de 12-13 ans serait fier, du coup, serait un peu impressionné par ton toi maintenant?
Mais non, on voit grand, tu vois ce que je veux dire. À un moment, ouais, il dirait, ah ouais, que ça. Fais un effort, Yannis. Ouais. Combien t'as là? 14 ans, c'est ça?
Ah ouais.
Moi, je suis sûre qu'il serait super fier.
Ça fait plaisir.
Bon, en tout cas, je suis trop fière. Donc, ouais. Mais du coup, vous me parliez aussi de pas mal de désillusions que vous avez eues qui ont engagé votre militantisme. Comment vous faites face aux autres désillusions qui doivent arriver en fait au quotidien? Comment vous gardez la force aussi de... Est-ce que vous comptez les uns sur les autres? Est-ce que, comment ça se passe?
Est-ce que je me permets juste...
Permets-toi.
Déjà, c'est un truc qu'on dit souvent, c'est genre coup de crâne dans la vie, tu vois. Genre, en vrai, il y a des problèmes, coup de crâne, on avance et tout, tu vois. Après, des fois, c'est dur.
Ça passe. Enfin, souvent, c'est les imageries qu'on va mobiliser, convoquer. Coup de crâne dans la vie, on enfonce les portes. La vie, elle est dure, mais nous, on est plus dur. c'est des choses un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'on compte aussi beaucoup les uns sur les autres et qu'il y a vraiment genre de vrais liens d'amitié, de solidarité qui nous unissent. J'ai l'impression de sonner hyper niaise, là.
C'est
archi moche, Yannis. Je ne t'aime pas.
C'est vrai que, par exemple, la deuxième annulation de la Pride... pas ouf, on n'était pas au meilleur du meilleur. Tu vois.
C'est ça. Mais après, ce qu'on a constaté, c'est que justement, on n'était pas forcément coordonnés par rapport à nos humeurs. Donc, quand moi, je me sentais un petit peu plus énergique et confiante en l'avenir, j'essayais de saucer Yannis et Lucas. Et dans les situations inverses, ils faisaient pareil. Du coup, on essaie vraiment de compter les uns sur les autres. Et puis, on sait qu'au bout du compte, c'est peut-être un peu prétentieux. Non, c'est pas forcément prétentieux, mais en tout cas, c'est un discours à affiner. Mais on sait que ce qu'on partage... en tant qu'amis, en tant que collègues, c'est un peu ce qu'on a aussi envie de transposer sur la société. Enfin, on a envie de vraiment... Mais vraiment, c'est trop beau. Je sais pas ce qui m'arrive ce matin. Vraiment. On essaye vraiment de fonder des espèces de sociétés qui soient véritablement liées socialement, qu'il y ait une vraie cohésion à travers la coopération, la solidarité. Ou même, c'est des sociétés où on peut être indifférents les uns envers les autres, mais qu'on puisse s'aider quand ça compte, quoi. Sans qu'on soit copines, sans qu'on se fasse détresse dans des bains. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est important d'avoir ce genre d'aide parce que si tu te lances seul face à la montagne de défis à relever, t'es pas dans la merde, quoi.
Et par rapport au futur, vous êtes plutôt confiant, confiante envers les causes que vous défendez? J'imagine que oui, parce que pour être militant, il faut être un peu optimiste.
je pense que non, moi personnellement, je vais répondre personnellement. Moi, j'avoue que je suis assez pessimiste. J'ai pas l'impression que ça va. Enfin, Sur le long terme, peut-être. Je pense pas, en fait, que on va voir énormément de changements de notre vivant. J'en ai bien peur. En plus, il y a aussi des histoires de crise écologique qui vont rentrer en compte assez prochainement.
Ouais.
Donc ça va être peut-être compliqué. Non, franchement, assez de pessimisme. Et en fait, peut-être que la réponse, elle est dans ce que vous dites. Oui, si on milite, si on agit, c'est peut-être qu'aussi il y a une part de nous qui y croit, tout simplement. Donc ça serait ça la réponse.
Bah, c'est vrai que parfois on en parle, on se dit aussi qu'on milite pas nécessairement parce qu'on croit en l'avenir, mais surtout parce qu'on n'a pas forcément le choix, parce que c'est soit ça, soit tout se prendre dans la gueule, en fait, juste comme ça, en mode oh, tu te réveilles le matin, tiens, un petit peu de souffrance avec ton café du matin, je t'en prie, hein. Mais du coup, c'est vrai que à la base, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste. Je suis pas forcément la personne la plus gentille ou la plus douce de la Terre, mais je suis assez optimiste. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, ce qui se passe avec le Covid, la gestion gouvernementale de la crise,
le séparatisme
aussi, pour lequel on tombe vraiment dénu. Enfin, même aussi tout ça, ça nous fait peur parce que, enfin, je sais pas quand on est. Enfin, moi personnellement, je suis pas musulmane au sens de musulmane pratiquante, mais j'ai été élevé dans un cadre musulman, donc ça fait que je suis quand même musulmane de culture. Et forcément, ben, quand on entend des discours comme ça et des mesures comme ça, bon, on se sent tout de suite menacé, qu'on soit musulman pratiquant ou pas. Et il y a tout de suite cette peur un peu irrationnelle de, est-ce qu'on va se retrouver dans des camps, en fait, ou ça se passe comment? Je sais que c'est un peu sombre d'un coup comme ça pour le podcast, mais.
Non, mais c'est hyper intéressant et surtout important, en fait, de dire que, en fait, tout ça nous fait peur. Comment on gère, le fait d'être militant quand on peut pas sortir de chez soi ou qu'on est masqué et que les regroupements sont pratiquement impossibles.
Mal, hein.
C'est dur. Hein. C'est un peu la question qu'on essaie de se poser en ce moment parce qu'on n'a pas nécessairement envie d'être sur le carreau le temps que les conditions sanitaires deviennent normales. Surtout qu'a priori, j'ai l'impression qu'il va quand même falloir qu'on apprenne à vivre avec le Covid. Donc, je suppose que il y a la solution numérique. Après, je pense qu'on peut aussi faire des choses en présentiel, mais parce que le problème avec la solution numérique, c'est que de fait, il y a plein de gens qui vont en être exclus. Surtout en Seine-Saint-Denis où la fracture numérique elle est énorme. J'ai pas forcément de chiffres exacts. Peut-être que toi, oui.
Non, mais oui.
Mais elle est là en tout cas. Et du coup, on peut pas forcément juste se permettre. Et puis même, enfin, je suis désolé, mais enfin, on a pensé par exemple à organiser une Pride en ligne sur Zoom. Enfin, pardon, mais ça donne pas forcément trop envie. Une Pride, en plus, c'est censé galvaniser un peu tout le monde grâce au pouvoir de la mobilisation. Et là, bah, tu te connectes sur Zoom, t'achètes un drapau LGBT et puis let's call it a day.
Et même en termes de visibilité, enfin,
même en termes de visibilité.
La Pride, c'est aussi ça.
C'est ça. Et puis même symboliquement, enfin, reprendre un espace public et s'y ancrer, degré ou de force, ben c'est fort, quoi. Après, on sait pas trop, là, justement, on est en phase de réflexion. Je pense qu'il y a énormément de militants en ce moment qui sont un peu en phase de réflexion, qui essayent de dealer aussi avec la PLS du...
Et en plus, c'est pas de notre faute. Moi, je le dis, c'est pas de notre faute. Mettez des lits d'hôpitaux et on pourra juste avoir... notre droit à manifester sera respecté, en fait. Genre, à un moment, arrêtez de nous saouler avec vos histoires, là. Et franchement...
On est complètement d'accord. Il y a énormément de choses, en fait, qui sont faites pour nous museler. Nous, on n'est pas nécessairement. Nous, on est tous sauf des complotistes. On pense pas nécessairement que le gouvernement passe son temps à. C'est pas du complotisme.
Là, c'est la rationalité pure. Je veux dire, à un moment, genre, ils n'ont pas envie d'augmenter les dépenses publiques. Donc, il y a un problème de fait et ils y répondent pas. Ils y répondent
si,
comment?
Si, il faut payer les urgences. Maintenant.
Ah oui.
Oui,
c'est sympa. Merci. Oui. Hein. Merci
beaucoup. Payer les urgences pendant une crise sanitaire.
Non mais franchement.
C'est ça. Je crois qu'il y avait aussi ce truc de. Je crois que j'avais lu ça à propos de l'augmentation des soignants ou même des coupes au niveau du personnel ou. Enfin, je sais pas s'ils veulent se mettre à dos tous les soignants de France, mais c'est bien gagné, je pense. Mais c'est cool, on les a applaudis à 20h.
Non, ça va, ça va.
Mais oui, voilà. C'est incroyable, en fait, si on devait se lancer dans une énumération de tout ce qui cloche en ce moment, ne serait-ce qu'en France, vraiment, je pense, on pourrait pas, ça pourrait même pas tenir dans le podcast, en fait.
C'est ça. C'est le problème, hein.
Et on n'est pas les seuls, en plus, tous les militants qui militent plus ou moins dans le même sens que nous, plus ou moins en vertu des mêmes combats que nous, bah là, leurs événements aussi sont annulés. Là, le seul événement qui est plus ou moins maintenu, c'est l'Existence Inter. Du coup.
Et est-ce que ça va tenir sans le collectif intersexe?
Oui, parce que le collectif intersexe, justement, s'est retiré pour les mêmes raisons qu'on a reporté la Pride, à savoir juste les conditions sanitaires sont pas
la
propices.
La possibilité de mourir, finalement.
Mais la possibilité de mourir, ouais, c'est pas cool de mourir. Moi, j'aime pas trop. Mais ouais, du coup, on se dit, ouais, peut-être que l'Existence Inter aussi va être annulée, et du coup, il y aura vraiment plus aucune. opportunité de se mobiliser. Surtout un truc comme l'existence trans inter. Enfin, on n'a jamais eu un mouvement comme ça où on a et des personnes trans et des personnes intersexes qui valorisent leurs propres revendications. Donc, c'est juste, je sais pas. Je suppose que c'est important aussi d'avoir des espèces de moments de doute, des espèces de moments où il se passe rien.
On se sent quand même pas mal impuissant. Et là, pour le coup, peut-être que la sortie du film, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle.
Au moins, ça permet
un petit peu de visibilité. Après, voilà quoi. Non, c'est quand même assez frustrant. On se sent impuissant et ça. Enfin, je veux dire. Là, on va réfléchir. Exact. Là, c'est nos gros défis, c'est réfléchir comment faire dans cette situation pour agir au mieux, pour continuer nos activités au mieux. Et on va essayer de trouver des réponses. Enfin, je veux dire, on est assez inventif et inventif.
C'est ça. Et surtout sarcastique et insolent, parce qu'au bout du compte, c'est ce qui nous mène là où on va.
Oui.
Le sarcasme et l'insolence. C'est quoi qu'il arrive, on sait que. On doit juste, entre guillemets, juste, mais on doit juste tromper la prétendue fatalité des choses, tu vois. On est encore plus fatal.
C'est ça, je sais pas.
Mais je trouvais que, justement, dans le film, c'est aussi un film où on rit. Enfin, vraiment, vous êtes drôle.
Non.
Non, mais c'est vrai. En fait, il y a tout un truc grave et en même temps très léger.
Non, mais oui, mais on est obligé de rigoler parce que sinon, on va passer notre vie à chialer, quoi. Et on n'a pas envie de chialer. En plus, je sais pas, c'est vrai qu'on est rigolo, quoi.
Tu trouves ?
Enfin, moi, oui.
Est-ce qu'on se fait rire ? Est-ce qu'on se fait rire ?
Non, mais c'est vrai que. S'il avait fallu qu'on filme chacun de nos moments de brainstorming, de préparation, de mobilisation, tatati, tatata, c'est vrai qu'on passerait un peu pour des quiches. Tellement.
Mais pas que, enfin, non, moi
non,
je sais
pas.
Hein, déjà.
Pardon, je me mets commencer. Des limites, pardon, je ravale mes propos.
Non, on passerait pas pour des quiches, mais c'est sûr que quand en fait on travaille et qu'on fait un travail qui est en fait ultra chiant, faut le dire, à un moment on est devant des tableurs Excel, devant des documents Docs, on écrit des mails, enfin c'est ça notre métier hein, concrètement dans l'associatif.
On lit des articles,
des
ouvrages hyper cryptiques pour théoriser nos actions.
Mais en gros c'est sûr que c'est pas très fun, donc quand on est ensemble on essaye de rigoler, sinon on n'y arrive pas.
Oui, c'est ça. Et y a un truc que j'apprécie particulièrement aussi par rapport à la nouvelle génération de militants, surtout les militants queer qui vont se revendiquer de l'intersectionnalité, c'est que on a vraiment de nouvelles façons d'appréhender, ne serait-ce que les sciences sociales, par exemple, les théories épistémologiques, tout ce qui vient d'une certaine façon un peu sous-tendre notre action et nous faire connaître un petit peu mieux l'espace, qui occupe l'espace, comment est-ce que les acteurs interagissent entre eux. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a les militants, surtout ceux qui sont un peu dans le domaine académique, ils deviennent de plus en plus campy, entre guillemets, plus sarcastiques, plus ironiques, plus promptes à faire intervenir des choses comme des mèmes, comme des références de culture populaire qui, je sais pas, il y a quelques années, auraient pas nécessairement eu le droit de citer dans les recherches. Et du coup, je sais pas, c'est rigolo. Enfin, je trouve ça rigolo aussi parce que tout cette espèce de complexe intellectuel est utilisé pour exprimer des espèces de vides existentielles post-modernes auxquelles tout le monde peut relate, en fait. Et du coup, on est en mode, oui, la vie est creuse.
Et on est là.
Et on est là.
Principalement.
Malgré la creusité, je ne sais pas quel est le substantif de creux.
Vacuité.
La vacuité, voilà, malgré la vacuité de. C'est la première fois que ça m'arrive.
Nos êtres. La vacuité de nos êtres.
C'est ça.
De vingtenaire.
L'insoutenable légèreté de l'âtre.
Et du coup, pour finir, j'ai la dernière question que je pose à tous les invités de 20 ans d'âge.
Je t'ai dit qu'il fallait qu'on écoute la dernière question. On a pas écouté la fin.
Ça permet d'être plus spontané, Yanis.
Ah.
Décrispe-toi.
Qu'est-ce que vous diriez à l'ado que vous étiez ? Si vous pouviez lui dire quelque chose, lui transmettre un message du futur, qu'est-ce que vous lui diriez ? Attention, je sens une bonne sortie là.
Franchement, en vrai, là, je vais me parler sincèrement. Je me dirais vraiment, genre, Mago, je vais t'économiser du temps. Franchement, genre, je m'encouragerais vraiment à avoir plus d'assurance, quand même être plus à l'écoute quand même des gens, mais essayer de relativiser un maximum en fait les griefs et les névroses que je vis, et surtout juste réfléchir un maximum et prendre le recul le plus objectif possible sur les choses. Histoire de accomplir ce que j'ai accompli jusqu'ici, mais genre à 17 ans, tu vois, genre économisons du temps et passons à autre chose direct. Mais ouais, quelque chose de cet ordre-là, je pense. Juste, t'inquiète, Mago, t'es une vraie go, resserre les boulons et vas-y, quoi. Coup de tête dans la vie, coup de crâne,
hein. Ouais, moi, continue, charbonne, évite les bêtises et avance, voilà, simplement. Y a pas de 10 000 trucs, hein.
Et prends soin de tes cheveux aussi, non?
Prends soin de tes cheveux, très important.
Ah, moi, je me dirais, sincèrement, parfois, je me dirais vraiment de prendre soin de mes cheveux. J'ai énormément de temps à adopter une routine capillaire et c'est honteux. C'est honteux.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à
Vingt
ans
d'âge.
C'était trop cool.
Merci à vous.
Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. À bientôt dans 20 ans d'âge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.